The executives assigned to this show decided to test it in Jersey. As a result, they think you mouth breathers are too stupid to understand my masterpiece. So listen up, dum-dums, and let me set the stage.
I thought the whole reason we're doing this thing is because if the girls reported their assaults, they wouldn't get any justice from Darlington. They beat up a lot of people based on this theory.
I'm sure there's a very funny story behind this. And I don't mean funny like ha-ha-ha funny.
Oui, je sais, vous les avez fait à votre image, vous les aimez bien, tout ça, mais excusez-moi de vous dire qu'ils sont quand même furieusement cons.
Give mommy a little kiss.
Allora.
The problem is not that there is evil in the world, the problem is that there is good. Because otherwise, who would care?
My daughter lives with her mother, no matter if she wants me to pay for every damn thing she can right-click online. When she talks to me at all, she's riding me about white male privilege. The myth of white male privilege.
Oh, man! This was supposed to be my big moment.
Bienvenue à l'écoute de Série Folie, nouvelle édition de votre émission qui vous parle série télévisée. Bonsoir, Aurore.
Bonsoir.
30e épisode de la saison 5, déjà.
Oui, je crois bien.
Oui, oui, ça avance. On approche de la fin de saison.
Oui.
Ça fera du bien, quelques vacances. Mais nous n'en sommes pas là. On va revoir avec toi, évidemment, bien les séries que tu as bien voulu visionner pour nous.
J'ai bien voulu.
Tu ne t'es pas trop forcé.
Non, ça a été.
Ça a été. Comme d'habitude, deux séries vont être revues à l'instant avec une nouvelle et une plus ancienne.
Exactement. Et on va commencer. Alors aujourd'hui, on se concentre sur des comédies. Et des comédies qui, toutes deux, ont pour personnage principal un ancien de la bande de It's Always Sunny in Philadelphia, dont on entend
le générique
en arrière-plan. Et donc, je commence avec la nouveauté. La nouveauté s'appelle EpiBio. C'est une nouveauté NBC qui nous raconte l'histoire d'un professeur de philosophie de Harvard, me semble-t-il, enfin d'une université américaine prestigieuse,
renommée, oui.
En tout cas, qui a été plus ou moins viré comme un malpropre et qui se retrouve à devoir donner un cours de préparation, cours préparatoire en biologie à des étudiants dans un lycée. Voilà, voilà. Donc, on se doute que, il connaît probablement pas grand-chose en biologie, mais surtout, il en a rien à faire et il ne s'en cache absolument pas. Lui, il est uniquement concentré sur la récupération de son ancien poste, sa vengeance vis-à-vis de la personne qui, selon lui, lui a volé son emploi, et puis il va embarquer ses élèves là-dedans à essayer à chaque fois de leur faire inventer des coups foireux pour embêter son concurrent ou pour lui trouver, parfois c'est simplement pour lui trouver une conquête pour le week-end, ou enfin ça part un petit peu dans tous les sens, mais en bref c'est un gros égoïste avec un coup énorme qui passe son temps à faire n'importe quoi. Je dois dire que c'est assez amusant à regarder.
Donc un personnage comme ça, tu le trouves sympathique?
Mais malgré tout, il est pas antipathique du tout. C'est vrai que il est relativement inacceptable d'un point de vue moral, vu que il est égoïste, il ne fait absolument rien de ce qu'il est censé faire, il ne pense qu'à lui, et en plus il est un petit peu il a une version de la réalité un petit peu particulière qui lui convient à lui seul, on peut dire les choses comme ça, mais malgré tout, je ne sais pas pourquoi. Quoi ? Est-ce que c'est l'acteur ? Alors l'acteur c'est Glenn Howerton, c'est celui qui jouait le personnage de Dennis dans Philadelphia. Mm-hmm. Est-ce que c'est lui qui arrive à rendre le personnage sympathique malgré tout ? Ou est-ce simplement parce que c'est tellement loufoque que... on prend à aucun moment ça au sérieux et donc... ou bien alors aussi parce qu'on s'identifie quand même tous un petit peu à ce type qui, entre le rôle social qu'il est censé jouer dans sa vie d'adulte et puis l'espèce de délire égocentré qu'il nous sort, on se dit tous qu'on aimerait bien pouvoir aussi faire la même chose de temps en temps, quoi. Non, vraiment, c'est vrai que c'est... je vais pas dire politiquement incorrect, c'est pas du tout le cas, hein, mais c'est pas du tout moralisateur, très clairement, c'est le contraire d'une comédie moralisatrice telle qu'on en a connue il y a très 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 longtemps maintenant, mais en même temps, c'est pas non plus bête et méchant, quoi, hein, ça reste très bon enfant. De temps en temps, on se dit même « Ah, il y a peut-être moyen de le sauver quand même. » Mais en fait, je crois que c'est pas le but, quoi. À aucun moment, véritablement, le but serait de voir le personnage évoluer vers quelqu'un qui, tout à coup, prend conscience que, je sais pas, les gens qui le méprisent, finalement, ont aussi peut-être des choses à lui apprendre, tu vois, ce genre de comédie pleine de bons sentiments. On n'est pas du tout là-dedans non plus. C'est plus un truc un peu jubilatoire où on est à fond dans l'égoïsme un peu immature, quoi. On revient en enfance et on fait tout ce qu'on veut sans réfléchir aux conséquences. Ce qui est évidemment amusant ici, c'est que des conséquences, il n'y en a aucune, vu que la seule personne véritablement qui pourrait être là pour surveiller un petit peu ce qu'il fait, c'est le proviseur de l'école qui est joué par Patton Oswalt qui est une espèce de petit nounours tout adorable qui est absolument incapable de faire jouer la moindre autorité sur ce type-là et donc le couple fonctionne aussi assez bien et je dois dire que les élèves qui font partie de sa classe, même si il les calcule à peine, hein, c'est à peine s'il remarque qu'ils sont présents ou pas, pour te dire, il vient quasiment en pyjama à l'école, tellement il s'en fout, ils arrivent quand même à exister alors qu'on les voit pas énormément, ils ont pas vraiment une vie que la série suivrait ou quoi. On est concentré sur le personnage du prof, mais malgré tout, en quelques apparitions comme ça, on a eu, on a quand même quelques personnalités qui arrivent à se dessiner, et tous aussi. Des personnages assez intrigants, assez attachants, où on se dit on aimerait bien pouvoir en découvrir davantage, quoi. Donc c'est une série qui n'a que qui est dans sa première saison, évidemment, puisque c'est une nouveauté pour le moment. Donc elle a eu 13 épisodes pour la première saison. Je n'en ai vu que la moitié personnellement, et on a appris qu'elle était renouvelée pour une saison 2, donc ça c'est une bonne nouvelle. On aura l'occasion peut-être d'approfondir chacun de ces personnages. Je suis plutôt contente. Voilà.
Voilà. On parlait donc de...
On parlait de Happy Bio.
Bon. Deuxième série à revoir avec toi en ce mercredi.
Alors, J'hésitais beaucoup, hein, parce que y a pas mal de séries dont je pourrais parler, et puis... je sais pas si t'es au courant, mais il y a toutes les annonces des nouveautés, des séries annulées, des séries renouvelées qui est tombée la semaine passée, enfin dans les derniers jours.
Récemment, oui.
Voilà, et qui continue à tomber au moment où on enregistre. Et donc, j'ai été un petit peu forcée par les choses à parler d'une série en particulier, et puis ça me donnera peut-être aussi l'occasion de parler de quelques autres séries qui ont été annulées et dont je regrette l'annulation, tout simplement. Alors, il y en a énormément, mais j'ai choisi mes préférées, évidemment. Hein, mes petites déceptions à moi toute seule.
Bien, on verra si tu es vraiment seule sur le coup.
Sans doute ne suis-je pas seule, mais bon, il y en a d'autres qui touchent peut-être ceux qui nous écoutent en ce moment et que je ne citerai pas. C'est un petit peu le jeu. La série dont je voulais parler donc s'appelle The Mick. Alors sur Netflix, ils l'ont traduit en Very Bad Nanny. Bon, chacun son truc, hein, mais voilà. Donc The Mick, comme je l'ai dit, met en scène en personnage principal un autre acteur, ou ici une actrice. Qui jouait dans It's Always Sunny in Philadelphia. Je dois t'avouer que je me souviens plus son prénom. Je sais qu'elle a le même nom de famille que les sœurs Olsen, mais son prénom, je me souviens plus. Bref, c'est quelque chose Olsen, quoi. Et cette actrice jouait la tante d'une famille, enfin oui, la tante d'enfants qui vivent dans l'opulence, qui vivent dans un grand manoir, qui sont très très riches et qui, suite à une enquête des impôts américains, voient leurs parents disparaître du jour au lendemain et donc sont confiés à la tante en question. La tante qui, elle, par contre, a une vie totalement dissolue, n'a jamais cherché vraiment à faire carrière dans quoi que ce soit ou s'installer, avoir une situation, comme on dit. C'est plutôt le même modèle d'ailleurs que le personnage qu'elle jouait dans Philadelphia. Et on a la rencontre de ces deux mondes où on pourrait se dire mais ils vont pas du tout s'entendre, ça va très mal se passer. Et en fait, alors qu'on pourrait croire que ce sont des mondes opposés, ils vont totalement se retrouver parce qu'ils sont aussi trash les uns que les autres, aussi dégueux les uns que les autres, aussi à fond dans les excès d'alcool, de drogue, etc. Et donc, ils vont très très loin. C'était quand même une série qui pouvait régulièrement aller assez loin sur certains sujets et qui, quasiment à chaque épisode, nous montre au moins un personnage la tête en sang parce qu'ils n'arrêtent pas de se planter dans des situations les plus drôles les unes que les autres. Voilà. J'ai eu l'occasion de revoir les premiers épisodes parce que elle est proposée maintenant sur Netflix, comme je l'ai dit, et donc j'ai replongé dedans alors que j'étais en train de... Oui, je crois que j'ai terminé la saison 2, j'ai recommencé la saison 1, et là, maintenant, j'apprends que ben, il n'y aura pas de saison 3, et je trouve ça vraiment très décevant, parce que, mine de rien, alors que ça peut avoir l'air d'être une petite comédie un petit peu... qui cherche à choquer de manière un peu gratuite, etc., malgré tout, il y avait quand même pas mal d'épisodes dans lesquels elle abordait des sujets des sujets qui font l'actualité, qui font polémique pour le moment, et de manière évidemment totalement détournée, mais il y avait quand même un message qui passait. Je trouvais que c'était assez intelligemment fait. Jamais ça n'allait dans le message glauque ou contradictoire. Je me souviens principalement d'un épisode, je crois que c'était la saison 1, dans laquelle il parle notamment de la question du genre, et avec un des enfants qu'ils font passer pour un transgenre, et donc c'est l'occasion, sur le ton de l'humour, d'aborder plein de questions comme ça qui sont finalement pas tant traitées que ça dans des comédies, quoi. Donc je trouve vraiment dommage que cette série n'ait eu finalement que 2 épisodes. C'est une durée de vie assez courte, surtout
2 saisons.
J'ai dit quoi ?
2 épisodes.
2 saisons. 2 saisons, c'est une durée de vie assez courte pour une comédie. Je terminerai en disant en plus que, en dehors de l'actrice principale, les 3 acteurs qui jouaient les enfants étaient vraiment excellents également. Je ne doute absolument pas qu'on les retrouvera dans d'autres rôles plus tard, mais ces rôles leur allaient vraiment comme un gant. Et donc voilà, je conseille de se plonger là-dessus si vous avez Netflix. C'est l'occasion, et en plus on rigole beaucoup.
Bien. Est-ce que tu veux déjà revenir maintenant sur tes déceptions ?
Oui, je vais te citer quelques déceptions. Alors, on était déjà au courant pour certains d'entre elles, hein, notamment Dirk Gently, qui a été annulé, je l'avais déjà annoncé. Damnation aussi, on en a suffisamment pleuré sur cette antenne.
Je te rejoins pour ceux qui apprécient.
Voilà, il y avait aussi Blood Drive, Ash versus Evil Dead, ou bien Lady Dynamite également. Mais j'ai appris aussi l'annulation d'autres séries où là j'ai été surprise, vu que je ne le savais pas encore, notamment 2 séries dont j'ai parlé ici il n'y a pas si longtemps, qui auront juste eu une saison. Donc il s'agit de Rise et de Here and Now. Je suis très déçue, je t'avouerai, surtout pour Here and Now, où vraiment je comprends pas bien pourquoi ils ont choisi d'annuler cette série-là sur HBO, qui a plutôt généralement tendance à soutenir les créations. Donc voilà, c'est embêtant. Sur Netflix, il y a Everything Sucks, qui était aussi une nouveauté, qui n'a eu qu'une saison. Ben, elle n'en aura pas plus, c'est aussi très décevant. Et alors Unbreakable Kimmy Schmidt, qui apparemment n'ira pas au-delà de la 4e saison, qui devrait, j'imagine, débarquer dans pas longtemps. Enfin, Playing House n'aura eu que 3 saisons. C'est aussi une petite comédie vraiment très drôle que je conseille, qui malheureusement est assez difficile à trouver chez nous, mais qui vaut vraiment le coup. Et d'ailleurs, ben, s'il y a des programmateurs télé qui nous écoutent, c'est peut-être le moment de...
Toi, programmateur de télé,
programmateur,
écoute un petit peu, concentre-toi.
Diffuse Playing House, il y a 3 saisons, il n'y en aura pas plus, mais c'est déjà pas mal si on a envie de bien s'amuser. Et enfin, il y avait aussi One Mississippi, j'étais déjà au courant, mais je voulais dire que c'était aussi dommage d'avoir donné que 2 saisons, c'était une bonne série aussi. Voilà.
Ok, tu n'as pas l'adresse des HBO aux États-Unis, une adresse mail pour leur écrire tout ton mécontentement.
Leur envoyer des insultes, oui, je devrais. Hein,
tu peux le faire avec diplomatie aussi pour tenter peut-être qu'ils les reprogramment. Parce que
si
tu les insultes direct, c'est pas gagné. Hein.
Non, moi, c'est insulte ou rien. Hein.
Ok, la menace, quoi.
Non, même pas.
Tu n'as plus aucun espoir.
Défouloir,
quoi.
Ouais.
Moi, j'essaierais quand même qu'ils réfléchissent à deux fois. Mais
ouais.
Les uns, c'est le temps, c'est foutu. Ce sont toutes des séries qui sont finies, quoi.
J'aurais dû y penser, c'est vrai. Bref, voilà. Donc, c'est assez décevant. Mais bon, il y aura peut-être des tellement bonnes nouveautés l'année prochaine qu'on les oubliera vite.
Allez, c'est ce qu'on souhaite. Vive Netflix.
Oui, enfin, c'est pas les seuls.
Mais non, mais ils produisent beaucoup quand même pour le moment.
Oui, mais comme je l'ai dit, ils ont supprimé Everything Sucks, ils ont supprimé
Kimmy
Schmidt.
Oui, mais justement.
Voilà, bon, ils n'ont pas participé au sauvetage de Damnation et on les déteste quand même un peu pour ça, donc voilà.
Ok. On va marquer une pause musicale après ces flots de haine.
Oh oui. On va s'écouter Centerfold de Jay Gale's Band, entendu dans White Gold. La suite de Série Folie, c'est maintenant. On va aborder le sujet du jour, Aurore. On va parler des complots.
Une émission qui va être appréciée par ton frère, notamment.
Notamment, c'est vrai.
Voilà. Et moi aussi. Vas-y, vas-y, viens avec des complots. Non, c'est pas ça. On va pas découvrir de nouveaux complots. On va voir comment...
Non, je suis désolée, j'ai pas de... de nouvelles fracassantes à faire. Bon, voilà. Je me suis dit, le complot, ça doit être un sujet pépère, ça a une semaine pas facile. Et puis, en fait, ben pas tant que ça.
Il y a des choses à dire.
C'est au contraire parce qu'il faut un peu creuser. Je me disais, il y en a plein partout dans les séries. Et puis, en fait, si on y réfléchit, si on regarde un petit peu, si on passe en revue... alors, peut-être aussi que dès qu'il y a un complot, je trouve ça con et que je regarde pas. Et du coup,
Il y a
peut-être un biais aussi de l'observatrice que je suis. Mais il n'empêche que j'ai pas trouvé tant de séries que ça dans lesquelles on avait des complots. Et en tout cas, si on parle de complot, ce serait quand même bien de savoir exactement de quoi on parle, parce que tu le sais, de nos jours, quand on parle complot, on pense souvent à théorie du complot. Or, c'est pas tout à fait la même chose. Je dirais même que c'est presque l'inverse.
Oui, ici, on est dans le complot réel qui se décrit devant nous. On sait que c'est un complot.
Mais oui, c'est ça. Quand on a une série, généralement, on va avoir des personnages qui vont chercher à découvrir la vérité et, a priori, ils vont quand même commencer à la trouver, quoi. On va avoir à un moment le fin mot de l'histoire.
Voilà, on va pas rester sur un doute. Est-ce que c'était vraiment un complot ou pas ?
On est quand même assez loin généralement de la théorie du complot où tout serait de plus en plus mystérieux au fur et à mesure qu'on avance. Il y a une seule série qui fait exception là-dessus, c'est vraiment X-Files. X-Files qui est un petit peu la série mythique sur ce sujet, qui à la limite a peut-être été à la base de beaucoup de passions, de... ce sont pas des complotistes, mais des gens qui sont passionnés par les complots, qui essaient d'en trouver un petit peu partout, parce que justement, quand tu regardes un épisode de X-Files, généralement, la fin de l'épisode, c'est pas tellement qu'on a trouvé la solution, mais qu'on a trouvé des preuves que c'était aussi mystérieux qu'on ne le pensait. Donc on n'a pas trouvé plus de vérité, on a trouvé plus de doutes. Et c'est un petit peu là-dessus que joue toute la série. Et c'est un petit peu aussi la définition d'une théorie du complot, quoi. C'est confirmer le doute qu'il se passe quelque chose, alors qu'un vrai complot, c'est confirmer que, il s'est passé vraiment quelque chose et en avoir les preuves. Donc c'est pas tout à fait la même chose. À part ça, dans les autres séries, comme je l'ai dit, ça arrive quand même rarement qu'on finisse pas par donner des infos. Ceci dit, dans X-Files, en 10 saisons plus une ou deux gratuites, ça signifie pas évidemment qu'il n'y a pas des pistes qui sont données, qu'il n'y a pas des éléments de vérité qui sont données. Mais la plupart des épisodes se clôturent quand même plus sur du doute que sur une résolution réelle, quoi. Je me suis dit qu'il était important d'essayer de définir ce que j'entendais plus ou moins par complot pour essayer de trouver des séries qui correspondent à ça. Et je me suis attardée sur 4 caractéristiques principales. Tu me diras ce que t'en penses, si ça te semble correspondre à ton idée du complot ou pas. La première caractéristique, c'est que on doit avoir un petit groupe, une association. Alors c'est pas forcément une association de malfaiteurs, mais en tout cas il y a un petit groupe de personnes qui complotent. Ça doit être très restreint, parce qu'évidemment plus il y en a et moins ça devient crédible que le complot ait pu arriver jusque là. Et en plus, puisque c'est un petit nombre, il y a aussi une sorte d'opposition entre ce petit nombre et puis la grande majorité des gens. Ce qui va nous donner d'ailleurs les deux autres caractéristiques. La première, c'est la question du secret. Cette association de personnes doit être secrète et c'est pour ça qu'ils ne peuvent pas être très nombreux, parce que s'ils étaient très nombreux, ben, il n'y aurait pas moyen de garder ça secret très longtemps. Et puis aussi, le fait qu'ils s'opposent à une grande majorité, ça va aussi avoir un impact sur une autre caractéristique qui est que normalement un complot, ça doit jouer, en tout cas essayer de jouer, d'influencer la société, voire la politique, quoi. Il doit y avoir un but, un objectif politique ou social derrière. Si c'est simplement, par exemple, une association de malfaiteurs qui se rassemble pour gagner de l'argent, c'est pas un complot. On est d'accord, c'est une association de malfaiteurs, il n'y a pas de complot derrière tout ça, même si de fait ils sont peu, ils essaient quand même de se cacher, mais c'est pas un complot, quoi. Donc voilà. Et puis j'ai trouvé la quatrième caractéristique qui, en fait, je m'étais dit, est-ce que ça signifie, par exemple, que pendant la guerre, imaginons un petit nombre de résistants qui se mettraient ensemble pour faire sauter un chemin de fer ou quelque chose comme ça, est-ce que ce serait un complot ? Est-ce que les actes de résistance peuvent être considérés comme des complots ? J'ai plutôt tendance à penser que non. J'ai plutôt tendance à penser que pour qu'il y ait complot, il faut aussi qu'il y ait quand même une dimension de pouvoir entre les mains de l'association en question. Il y a le pouvoir d'obtenir un véritable changement politique. Je sais pas ce que tu en penses. Si toi, tu mettrais les actes de résistance du côté du complot ou pas ?
Bonne question. Parce que déjà, complot, pour moi, même s'il y a une volonté de changer le monde, c'est souvent négatif, tu vois, péjoratif.
Oui.
Et donc, la résistance, pour moi, si elle combat le mal, c'est pas un complot, c'est une action citoyenne.
Oui, évidemment. Mais moi, je me disais, tu vois, si c'est par exemple un petit groupe de militaires qui complote pour faire un coup d'État, il y a une dimension de puissance, de recherche de puissance qu'il n'y a pas dans le cas des résistants qui essaie juste de déstabiliser un pouvoir dictatorial en place, quoi.
Oui, c'est ça. Donc, non.
Voilà. Non. Donc, voilà, c'était les quatre caractéristiques.
Je vais d'ailleurs revenir sur tes caractéristiques. Tu parles toujours d'un petit groupe.
Oui.
Il y a une exception, peut-être ? On peut être tout seul ?
Ah, est-ce qu'on peut comploter tout seul ?
Je pense à Yona Bomber, par exemple.
Oui. Tu dirais que c'est un complot ?
Il voulait changer la société.
Ah oui, il veut changer la société, c'est clair.
En terrorisant, en étant un meurtrier, ok, mais il complote quelque part.
Ouais.
Ah ah !
Moi, j'ai du mal à dire qu'il complote. J'ai l'impression que pour comploter, il faut quand même être au minimum à deux.
Il faut discuter. Et donc, parler tout seul dans sa cabane, ça ne suffit pas, quoi.
Oui, c'est vrai que j'ai un peu de mal avec l'idée que quand tu es tout seul dans ta cabane, tu complotes. Mais ça pourrait être envisagé, quoi.
C'est parce que dans ta définition, c'est ça. C'est vraiment tenter de changer, je sais pas, le pouvoir en place, ce genre de choses.
Oui, oui.
De manière, en voulant prendre le pouvoir. Bon, là, il n'y avait peut-être pas cette volonté-là, mais en tout cas, il voulait changer les choses.
Mm-hmm.
Et clairement, à part le fait qu'il ne parle pas à quelqu'un, moi, je le vois bien comploter dans sa cabane, quoi. Tout seul.
Comploter tout seul, oui, pourquoi pas. C'est vrai que j'ai... Parmi toutes les séries que j'ai passées en revue, je suis passée sur lui et il correspondait pas à une des caractéristiques, donc je l'avais laissé de côté à cause de ça, quoi, parce qu'il était tout seul. Pour moi, il faut être plusieurs pour faire un complot.
On ira voir la définition exacte au dictionnaire déjà. Se dit d'une personne seule ou d'un petit groupe. Et là, on saurait.
Ah, ben oui. Mais est-ce que le dictionnaire est plus malin que nous? C'est ça la question.
C'est bien possible.
Tu crois? Bon, allez, si tu crois encore au pouvoir du dictionnaire, je ne peux plus rien pour toi. Bon, bref. Donc, quatre caractéristiques et quatre caractéristiques qui vont permettre de se dire que, d'un point de vue narratif, le personnage principal ou les personnages principaux d'une série dans lesquels il y aurait un complot aurait deux quêtes principales. La première, ce sera la découverte progressive de la vérité qui a été cachée par les comploteurs. Hein. C'est un des intérêts d'avoir un complot dans un récit, c'est qu'on va, ça va permettre d'instaurer une sorte de suspense, éventuellement aussi de surprise, quand tout à coup on découvre que quelqu'un qu'on croyait être au-dessus de tout soupçon fait en fait partie de l'organisation secrète très 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 méchante qu'on est censé combattre. Ça c'est la première quête, et puis la deuxième quête, ça va être un combat pour rétablir une forme de justice, et comme je l'ai dit, la justice c'est notamment rétablir une forme plus démocratique, vu que le complot est plutôt du côté d'un petit pouvoir détenu par quelques personnes qui décident de tout pour tout le monde. Et puis là, on essaie de rétablir le fait que tout le monde a le droit de décider de son propre destin en commun, donc quelque chose d'un peu plus démocratique. Et il y a une petite dimension là de combat du challenger contre celui qui est le plus puissant, du David contre Goliath, hein, pour utiliser la métaphore biblique bien connue. Il y a dans le combat contre le complot, bien souvent, l'idée qu'on a comme ça un personnage ou un petit groupe de personnages qui s'attaquent à des personnes qui, même si elles sont pas très nombreuses, ont réussi à infiltrer généralement les plus hautes sphères du pouvoir et ont quand même beaucoup, beaucoup de pouvoir, justement, pour contrer leurs actions, quoi. Donc, voilà les deux intérêts que peut avoir le complot dans un récit, quel qu'il soit, et donc dans les séries également. La dernière chose que je rajouterai avant de passer à la musique, et puis à autre chose, c'est que parfois, c'est peut-être aussi une question de point de vue, de savoir qui complote et qui ne complote pas. Par exemple, parfois on a des personnages principaux, des héros, qui cachent un petit peu la vérité, qui font des actions plus ou moins en douce de la population, généralement pour leur bien. Si on pense par exemple aux deux frères de Supernatural, ils sont au courant de quelque chose qui n'est pas visible pour la majorité des gens, et ils agissent contre cette réalité qui leur est visible à eux, mais presque que à eux, pour le bien de la population, pour que la population puisse continuer à vivre en paix. Ce sera la même chose dans Grimm, ce sera la même chose éventuellement dans Buffy contre les vampires, dans Heaven, et on pourrait comme ça en citer énormément des personnages ou des groupes de personnages qui eux aussi pourraient être considérés finalement comme un petit groupe, une petite association qui agit en secret dans un but social, puisque c'est pour maintenir une sorte d'ordre et de paix sociale, avec la plupart du temps des pouvoirs ou une capacité de se battre quand même au-dessus de la moyenne. Mais en même temps, comme ce sont les héros, c'est pas un complot, c'est pas pour le mal, c'est pour le bien, et donc on dira pas que c'est un complot. Finalement, le complot, c'est peut-être aussi, comme tu l'as dit, une question de morale avant tout. Quand c'est pour le bien, ça va, mais quand c'est pour le mal, ça va pas, quoi.
Oui, c'est comme ça que je le vois en tout cas. Alors je veux revenir sur la définition. Alors c'est pas celle du Larousse, il n'en parle pas, mais une autre définition trouvée sur l'internet. Comploter, c'est un verbe transitif direct, préparer secrètement et à plusieurs.
Ah!
Ah, mais moi, pour moi, il est pas seul dans sa tête. C'est ça que je voulais dire.
Oui, bien sûr. Essaie de te rattraper.
Mais non, clairement, moi aussi, je le vois discuter avec quelqu'un. Mais c'est avec lui.
D'accord.
Okay. Ou son chat, ou je sais plus qui.
Ok, si tu veux.
Voilà.
Bon, on passe à la musique ?
Oui.
On passe à la musique, ça s'appelle Take Back the City. C'est dans c'est de Snow Patrol et c'est dans Gossip Girl.
Take back the city for yourself tonight. I'll take back the city for me. Take back the city for yourself tonight. Whoa, whoa. God knows you put your life into its hands, and it's both cradled you and crushed. But now it's time to make your own demands. Whoa, whoa. All these years later and it's killing me, your broken records and words. 10,000 craters where it all should be. Whoa, whoa. No need to put your words into my mouth, don't need convincing at all. I love this place enough to have no doubt. Whoa, whoa. It's a mess, it's a start, it's a flawed work of art. You're steady, you're calm. Every crack, every wall. Pick a side, pick a fight. Get your appetite right. You can sing till you drop, 'cause the fun just never stops. I love this city tonight. I love this city always. It bears its teeth like a light and spits me out after days. But we're all gluttons for it. We know what's wrong and it's right. For every time it's been hit, take back the city tonight. Tell me you never wanted more than this, and I will stop talking now. One perfect partner, one eternal kiss. Whoa, whoa. Take back the city for yourself tonight. I'll take back the city for me. Take back the city for yourself tonight. Whoa, whoa. It's a mess, it's a start, it's a flawed work of art. You're steady, you're calm. Every crack, every wall. Pick a side, pick a fight. Get your appetite
déjà de retour pour la dernière partie de cette émission qui vous parle des complots dans les séries télévisées. Alors,
on va voir que même s'il n'y en a pas autant que j'aurais pu l'espérer pour faire ça les doigts dans le nez, malgré tout, les complots peuvent prendre plusieurs formes dans les séries télévisées. C'est ce qu'on va voir maintenant. Ici, j'ai trouvé 5 formes différentes. Non, 4 formes différentes. Plus, après, on va parler de 2 comédies. Alors, la première, c'est... le fait que dans un certain nombre de séries, on va avoir, je dirais, les complots au sens le plus strict, le plus proche de la définition qu'on a pu donner. Donc, le but, c'est de déstabiliser la société ou bien carrément de prendre le pouvoir. Il y a comme ça des séries qui, sous une forme ou sous une autre, nous présentent des petits groupes de personnages, soit qui font partie de l'État et qui sont même parfois au plus haut niveau de l'appareil politique, soit au contraire qui sont totalement en dehors de l'État et qui vont avoir pour but de le déstabiliser. On peut penser par exemple à Homeland. Dans ce cas-là, évidemment, il s'agit plutôt d'un complot terroriste pour déstabiliser l'État américain, en l'occurrence. Par contre, dans une série comme Prison Break, eh bien, on a aussi un complot qui, si je me souviens bien, implique le vice-président des États-Unis. Donc, tu vois que ça va haut quand même.
Ah,
hein,
tu te souviens de choses dont je ne me souviens pas du tout. Donc, c'est
quoi ? Il me semble qu'il était vice-président. Possible. Mais en tout cas, il avait une haute fonction, ça c'est certain. On peut penser aussi à, même si je n'ai pas continué la série, donc finalement, je ne sais pas qui a fait le coup, mais je sais bien que dans Quantico, il y avait aussi une sorte de complot et tout le but était de découvrir qui finalement avait véritablement commis les attentats dont était accusée l'héroïne principale. Dans Designated Survivor, là aussi, on a c'est carrément toute la chambre des représentants qui saute, et puis on apprend assez vite que probablement ça a été fomenté en interne, cette histoire-là. Évidemment, dans House of Cards, là c'est encore plus évident, même si le but, là, ça va pas être du tout pour le héros de découvrir qui a fait le coup, vu que celui qui a fait le coup, c'est lui, hein. Et donc tout l'intérêt de la série, c'est de suivre la manière dont il complote finalement. Alors là, par contre, c'est vrai qu'il est quand même un petit peu tout seul pour comploter. Hein.
Mais il parle avec nous.
Mais il parle avec nous, exactement. Donc, donc il n'est pas tout seul.
Et c'est là que je n'aime pas la série.
Exactement. Bon. Dans Person of Interest aussi, on a plutôt sur la fin de la série, sur la dernière saison, une sorte de complot aussi où une société de surveillance concurrente à la machine détenue par nos héros ont pour but véritablement de prendre la main sur l'ensemble de la population et du territoire américain. Et puis sur d'autres niveaux, on pourra penser par exemple à la figure de Hydra dans Marvel et notamment dans Marvel Agents of S.H.I.E.L.D. Et puis on peut penser aussi à la série 11-22-63, si je ne m'abuse, qui nous parlait de l'assassinat de Kennedy et où on avait l'occasion notamment de voir les préparatifs. Donc là on avait un complot réel, mais oui, bon, d'accord, on va pas revenir sur cette histoire-là.
Ne t'avance pas trop.
Est-ce que Oswald était tout seul ou pas ? En tout cas, dans cette série, il n'était pas tout seul. Hein. Donc voilà, ça c'était le premier genre qu'on va pouvoir retrouver. Le deuxième type de complot qu'on va pouvoir retrouver, là c'est plus un complot parce que on a une vérité qui est cachée. Le but n'est pas vraiment de changer la société, mais on a un petit groupe qui détient une forme de vérité. Alors parfois, c'est parce qu'ils ont fait des recherches et ils ne veulent pas qu'on sache qu'ils sont en train de faire des recherches. Parfois, c'est au contraire parce qu'il y a une sorte de puissance supérieure qui fait tourner le monde et ils sont les seuls à le savoir et donc ils cachent ça au reste du monde. Ça peut prendre différentes formes. Les séries qu'on peut citer sur ce mode-là, ça sera par exemple Stranger Things dans le cas d'une grande méchante société qui a fait des recherches, qui a ouvert un monde parallèle et puis qui essaie un petit peu de cacher ses bêtises en faisant comme si de rien n'était. Ça, ce sera un mode. Mais on peut aussi retrouver ça sur un autre genre dans l'histoire du caméléon, où là aussi on a le centre qui est une sorte d'association très très mystérieuse où ils font des recherches à l'insu de tout le monde, et donc on pourrait estimer aussi qu'il y a une dimension de complot là-dedans, sauf que finalement il n'y a pas vraiment de recherche de... Enfin, quoique, hein, c'est vrai que quand Jarod était enfermé dans le centre, on lui demandait quand même d'imaginer des scénarios pour faire des... notamment changer des choses dans la réalité. Donc, ce que je dis n'est pas aussi certain que ça. Alors, on peut penser aussi à Manhattan, où là, c'est carrément l'État qui cache, qui essaie de cacher le fait qu'elle est en train de mettre sur place des recherches pour la bombe atomique. Ça peut être Counterpart, dans lequel on cache à la population le fait qu'il y ait un monde parallèle qui se soit détaché d'une autre il y a une trentaine d'années. Ça peut être Dollhouse, où il y a une sorte de compagnie qui élève comme ça des poupées vivantes pour leur implanter la personnalité que vous voulez, etc., etc. Ça, c'est un type. Et puis, on a le type, comme je l'ai dit, où c'est plus... il existe une vérité supérieure que seulement quelques personnes connaissent. Ce seront, par exemple, les observateurs dans Fringe. Ça pourra être aussi dans Timeless, même si là aussi, j'ai plus ou moins abandonné l'affaire. Mais il y a aussi des gens qui en savent plus que d'autres sur le monde et la manière dont il fonctionne. Dans X-Files, on pourrait aussi mettre ça dans cette catégorie-là. Dans Heroes aussi, où il y a aussi une sorte d'agence qui sait qu'il existe des gens qui ont des pouvoirs et qui les poursuivent, etc., etc. On pourrait encore en citer bien d'autres. Sur un mode aussi purement privé, à nouveau la grande méchante compagnie privée, on pourrait penser à Damnation, où on a les capitalistes qui se rassemblent comme ça pour faire des sortes de chasse à l'homme. Donc il y a une sorte de... Et derrière tout ça, il y a une sorte de complot des grands patrons pour essayer de s'approprier toutes les terres, etc. Donc on pourrait peut-être aussi les mettre dans cette catégorie-là. Troisième catégorie, cette fois-ci, on a un certain nombre de séries dans lesquelles, finalement, des complots, ça va dans tous les sens. Tout le monde complote contre tout le monde. Et donc, au final, on ne peut pas vraiment en retenir un plus qu'un autre. On peut penser, évidemment, à Game of Thrones ou bien à The Americans ou encore à une série comme Rome. Et je suis sûre qu'il y en a encore beaucoup d'autres qui sont sur ce mode. Là, j'ai même pensé à la série française Baron Noir, dans laquelle finalement on est dans le monde de la politique et tout le monde se tire un petit peu dans les lattes les uns des autres, quoi. Quatrième et dernière forme, cette fois-ci, c'est pas tellement qu'il y ait un complot, parce qu'il n'y a personne qui est vraiment aux manettes, mais c'est juste que ce sont des séries qui nous montrent que le système en lui-même est en train de tourner et de devenir complètement fou, quoi. Et donc, il n'y a plus personne aux manettes et ça va droit dans le mur. Ça peut partir dans des modes plutôt comiques du genre Brain Dead ou Blood Drive, éventuellement un peu plus angoissant comme Black Mirror ou The Handmaid's Tale ou encore 3%. Et puis, ça peut aussi être sur un mode plus réaliste où on nous montre simplement que même s'il n'y a aucune volonté de mal faire, le système ne fonctionne pas et est plein de défauts comme dans The Wire, par exemple. Exemple. Donc voilà, là il n'y a pas besoin de complot, c'est juste que les trucs mis en place finissent par produire des effets désastreux, quoi. Et puis je me suis posé la question, est-ce qu'il existe des comédies aussi qui comprennent des complots ? J'en ai trouvé seulement deux. Alors, une qui se moque justement de toute la vague un peu complotiste et post-X-Files où on cherche un petit peu des mystères partout, c'est People of Earth avec une bande d'aliens qui essaient plus ou moins d'entrer en rapport avec ces fous d'OVNI et sur un mode évidemment très drôle. On a notamment un reptilien, enfin on en a plusieurs comme ça. Et puis sur un tout autre mode, on a The Good Place, dans lesquels, mais finalement, c'est aussi un petit peu un complot qui est mené contre les personnages principaux de la part de, eh bien, regardez la série, vous verrez bien, hein, je vous l'ai déjà suffisamment dit qu'il fallait regarder The Good Place. Bref, conclusion, donc, première chose, eh bien, un complot, évidemment, c'est très tentant pour une série, ça permet d'avoir du suspense ou de la surprise, mais en même temps, c'est un petit peu dangereux parce que c'est assez vite ridicule malgré tout. Et deuxièmement, au final, ben, si on regarde, il n'y a pas tant que ça de séries qui sont parano. On identifie assez vite qui a fait le coup. Peut-être pas vite d'ailleurs, mais on les identifie au minimum. Mais par contre, on peut remarquer que, étant donné qu'il y a assez peu de représentation de l'État et des enjeux politiques dans les séries, en général, mais c'est assez normal qu'on n'ait pas trop de complots, puisqu'on se concentre généralement surtout sur les motivations personnelles. Exemple, la série VIP, où on est uniquement dans les petites aspirations des uns et des autres, ou sur un tout autre mode, Broadchurch, où là aussi, c'est pas qu'il y a un complot, mais chacun a ses petits secrets qu'il essaie de garder à tout prix, et c'est ça qui pose problème, quoi. Voilà.
Voilà, bah finalement, il y en avait des séries à complot.
Mais finalement, il y en avait et je les ai pas toutes citées, figure-toi.
Bien. Bon, on va clôturer ici. On va se quitter avec un court morceau musical.
Oui, on va se quitter avec Funky Town de Leap Inc., entendu dans Gotham.
Et on se retrouve la semaine prochaine. Série Folie sera podcastée, eh bien, tout prochainement via le site internet www.seriefolie.be. À la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.